Chapitre 12. Un si mélancolique bonheur. L'avion se pose dans un doux feulement retenu sur la piste de l'aéroport qui prolonge le ciel en un long ruban gris. Le crépuscule suspend encore ses ombres au-dessus de la ville de Saint-Exupéry. Serge s'étire, peu pressé de sortir de l'avion qui l'a amené directement de Paris. 5 heures de voyage ont suffi pour changer l'atmosphère, les couleurs et les parfums. Serge est un peu amolli, ralenti dans ses gestes et ses décisions. Il doit repartir de Nouakchott dès 7 heures le lendemain, et n'a en cet instant qu'une seule envie, celle de dormir. Il a réservé une chambre pour la nuit et espère vaguement ne pas avoir à trop parlementer avec le chauffeur de taxi pour s'y faire conduire. Le temps de sortir de l'aéroport, la nuit est tombée. Serge aperçoit de loin les 2 minarets de la mosquée saoudienne, puis se laisse porter dans les rues qui se coupent à angle droit avec une régularité jamais prise en défaut. Arrivé dans sa chambre, il prend rapidement une douche froide et s'endort avant même de s'apercevoir que la pièce n'a pas de fenêtre. Dehors, les étoiles veillent. Le lendemain, le soleil caresse déjà les figures géométriques qui ornent les maisons de pierre et d'argile de Tijitchka, lorsque Serge se rend sur la place du marché. Au bord des toits, d'étonnantes gargouilles racontent des histoires de pluie improbables, et le lit de la rivière suit imperturbablement son chemin solitaire et sec depuis plusieurs mois. Serge a rendez-vous avec un guide recommandé par celui qui l'avait accompagné jusqu'à Tijitchka, lors du premier voyage sur Tichit. Il avait trouvé la veille, en arrivant à l'hôtel, un message lui indiquant l'heure et le lieu où il devait rencontrer l'homme. La place est frémissante de bruit, de couleurs et de mouvements. Les camions et taxibrousses manœuvrent au milieu de la foule, déposant des passagers, chargeant des sacs de riz et des guirlandes de piments séchés d'un rouge sombre. Des hommes au teint clair déambulent, sans bousculer les plis bleus de leurs sarouels et leurs boubous damassés, confèrent à leur démarche une noblesse inimitable. Un groupe de femmes, telles des frégates fendant les eaux avec leurs mélaphas colorés, conduit une bande d'enfants aux yeux espiègles et à l'allure appliquée. Ils portent leur petit cartable avec un grand sérieux, ne jetant qu'un regard sur les marchands de noix de collard, mais se poussant du coude dès qu'ils pensent ne plus être surveillés. Sur des étals, des tas de dattes, des piles de paquets de thé, des céréales, des légumes et des fruits bien alignés donnent l'image d'une certaine abondance. L'eau est rare ici, comme dans toute cette région même, si la palmeraie offre l'impression d'une production extraordinaire pour qui arrive directement du désert, et chacun sait combien la nature est peu généreuse dès que l'homme ne se met pas totalement à son service. Pour la plupart, les vendeurs ont la peau sombre, et Serge devine derrière l'animation générale une subtile hiérarchie qui règle les moindres relations entre tous les membres de cette population. « Alors, tout bas, on y va !» Serge se retourne. L'homme est grand, sec, son chèche blanc souligne la couleur métallique de ses yeux. « J'ai appris le français chez les sœurs, ça fait bien longtemps. Mais je rate jamais une occasion de parler, une fantaisie de mon père. Remarquez, je suis allé aussi à l'école coranique. Mon père travaillait dans l'administration française, comme il pensait que ses enfants devaient parler la langue de ses employeurs. Alors, il n'y a qu'avec ma mère qu'il a rencontré des obstacles majeurs. Il lui faisait réciter des listes de mots nouveaux tous les jours, mais elle préférait nous écouter parler. Et elle disait que ça faisait sérieux, mais que ça faisait pas une musique très joyeuse. Mais vous parlez drôlement bien. Je lis aussi. Un blanc est arrivé ici un jour et il m'a demandé de le conduire au Mali. C'était un vieil homme tout menu. Oh, il avait entre autres une énorme malle, intransportable, tant elle était lourde, bien sûr. J'ai voulu le convaincre qu'on avait intérêt à charger plutôt d'eau, d'essence et de ravitaillement en quantité suffisante pour se lancer dans cette expédition. Oh, pauvre. C'était il y a longtemps, et il y avait moins de route, moins de véhicules à moteur. Oh, les pistes étaient souvent très épouvantes à cette époque, si on voyageait pour un autre chapeau. Ouais, je voulais qu'il laisse sa balle ou qu'il allège. Ben, bon fils, m'a-t-il dit, je peux pas laisser ça derrière moi, je reviendrai pas. Je vais finir un travail que j'ai commencé il y a 25 ans à Sangar, ça m'occupera tout le temps qu'il me reste à vivre. Je voudrais bien, je fais mes recherches sur les maisons de la parole et je vais avoir besoin de tout ça. Alors, il a ouvert sa malle et il me montrait des piles de papier couverts d'une écriture minuscule, des livres. Il en a sorti de tout écorné, les dialogues de Platon et Madame Bovary, puis il me les a tendus. Oh, je les emmène toujours avec moi depuis qu'on me les a offerts. Ça fait presque 50 ans, a-t-il rajouté dans un murmure. Gardez-les, allez, je vous les donne. On peut vivre toute une vie à ne lire que ces deux livres-là. Serge regarde le guide qui semble plonger dans ses souvenirs. Et vous l'avez conduit au Mali? Oui, le trajet était pénible, il faisait chaud, et le vieil homme souffrait énormément. Il était fatigué, mais à chaque halte, il semblait reprendre des forces. Il me parlait pendant des heures de Flaubert et de Platon, totalement oublié de son épuisement. Et quand nous sommes arrivés à Sanga, j'ai voulu lui rendre les livres, mais il a refusé. « C'est à vous maintenant de continuer à vivre avec eux, » m'a-t-il dit. Alors, depuis ce temps-là, je les ai toujours avec moi. Et bon, il faut partir, on a 250 km à faire, et si tout se passe bien, on devrait être à Tichit ce soir. » Je croyais qu'il nous faudrait plutôt 2 jours, enfin... C'est ce qu'avaient mon frère et moi avec notre guide la première fois que nous sommes allés à Tichit. Ah oh ben je sais, Cosa m'a expliqué. Vous veniez de rudement loin. Ah oh, vous me rencontrez ça en route, c'est pas fréquent de voir des touristes débarquer ici directement de Paris avec leur propre voiture. Mais moi après, je continue sous Walata, j'y ai de la famille. Les deux hommes s'installent, Serge n'a qu'un sac à dos et le véhicule a déjà son chargement d'eau et d'essence. C'est un tout-terrain qui garde encore fière allure au regard de la plupart de ceux qui circulent sur la place, malgré son aménagement vétuste et sommaire. Après quelques années d'horreur de route, Serge a le sentiment d'en avoir jamais quitté le désert depuis des semaines. Il a raconté son périple depuis la France jusqu'à la Mauritanie, reprenant sans même s'en rendre compte les mots et les impressions d'Adrien. Il n'y a que le motif réel du voyage qu'il n'a pas évoqué. Mais là aussi, il a du mal à faire la part des choses et à distinguer objectivement les raisons réelles qui les ont conduits à faire des milliers de kilomètres en voiture au lieu de prendre l'avion, et même à décider de ce déplacement alors que la solution du problème se trouvait à Paris. Pareillement, il sent bien que ce deuxième voyage pour Tichit aurait pu être évité s'il s'était placé dans la seule perspective de l'efficacité. Mais justement, toute cette affaire relève d'un autre registre. Depuis l'appel d'Adria, il y a maintenant 2 mois, Serge est convaincu que tous deux n'ont raisonné qu'à partir de leur seule affectivité. La récupération du manuscrit conclut de façon heureuse, ce qui a été un temps très intense de rencontres entre les deux hommes autour de leur passé commun et d'un présent dont chacun, séparément, voyait le caractère délétère en ce qu'il les éloignait tous les jours un peu plus de leur vérité. La conclusion heureuse de l'aventure aurait pu ne pas être, et cela n'aurait en rien fait changer à cette histoire. et plus jamais ils ne redeviendraient ce qu'ils étaient en train de devenir. Serge en est persuadé. C'est d'ailleurs maintenant que Serge comprend vraiment le désir d'Adrien de passer par la ville dans laquelle ils avaient vécu quand ils étaient enfants. Alors ce désir, Serge a à son tour, et il sait que seule la nostalgie qu'il en a rend le bonheur possible. Il croyait qu'il lui faudrait du temps pour revenir à ce passé, mais le passé l'a rattrapé en silence, au travers des émotions de son frère, un peu comme l'attachement du vieux chercheur pour deux livres s'est glissé dans le cœur du guide qui le conduit maintenant à Tichit. L'impression de solitude que ressent Serge dans ce désert n'a rien à voir avec celle contre laquelle il s'est tant battu ces dernières années, alors même qu'il menait une vie de célibataire très entouré. Il a fait la paix avec lui-même et se sent fort d'une tranquille assurance. C'est la route de l'espoir. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça ? Oh oui, j'ai lu un truc là-dessus, je me souviens plus bien. Autrefois, les caravanes qui allaient au Mali et au Niger passaient par là. Les oasis servaient de halte, on y trouvait de l'eau, de la nourriture et toute la luzerne nécessaire aux caravaniers était cultivée par des esclaves noirs. Et à partir de cela que se sont diffusées les règles de l'islam, parce que c'était les seuls points de rencontre entre les nomades de tribus différentes. Une caravane partait tous les ans pour la Mecque, puis cette route nous relie à la mer. Enfin, les choses ont bien changé, les cultivateurs sont trop peu nombreux pour s'occuper des palmeraies, la puce fait rare. Quand elle tombe, le sel remonte à la surface et brûle la terre. Puis les dunes de sable avancent toujours un peu, plus. Vous avez vu à Tichit ? Oui, on dit que sept villes s'y superposent englouties inexorablement par les sables, les unes après les autres. Mon frère prétend que le désert rêve et que c'est pour cela que les dunes se déplacent toujours. Les ombres commencent à s'allonger quand apparaissent les premiers signes de l'arrivée sur Tichit, fantôme de ville où une poignée de maisons belles encore lutte contre l'ensablement. Des palmiers étranglés à mi-hauteur par le sable gémissent en fouettant le ciel de leurs palmes torturées. Serge reconnaît la ruelle qui grimpe vers le groupe d'habitations serrées autour de la petite place sur laquelle Abidine a l'habitude de s'installer le soir pour reposer son regard sur les moutonnements du désert. Il descend de voiture et règle son guide, cet original amoureux de la langue française. Il ouvre son sac à dos et en sort un petit recueil des poésies de Supervielle qu'Adrien lui avait conseillé de lire lors de leur premier voyage à Tichit. Allez, tenez, je suis sûr que mon frère aurait aimé vous le donner. Il me disait que c'était un vrai livre de voyage. Je ne l'ai pas depuis 50 ans, mais vous verrez, il y a des choses très belles. Merci. Oh, vous savez, beaucoup de livres circulaient à d'autres chameaux autrefois dans cette région, avant qu'elles ne meurent, étouffées par le sable et la sécheresse. C'est pareil pour les hommes. Oh, sans les mots des livres, ils ne meurent pas, peu à peu, et quand ils finissent par s'en apercevoir, il est trop tard. Ils sont étouffés par les habitudes, par les préjugés, par tout ce qui encombre la vie. Les livres font garder les yeux ouverts. C'est fou la beauté du monde quand on le regarde. Il faut qu'Adrien vous rencontre, vous êtes exactement le type à raconter le genre de choses qu'il adore. On peut vous prendre au retour, appeler la gendarmerie de Walata quand vous voudrez repartir. Il a fini votre travail, votre frère ? Oui, il l'aura fini, même si c'est un boulot sans fin. Mais dites-moi, si je ne suis pas indiscret, pourquoi êtes-vous revenu le chercher ? Il ne peut pas revenir en France tout seul ? Non, 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 ce n'est pas ça. Oh, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai un jour, j'en suis sûr. Bon, ben, au revoir, à la prochaine. Le taxi brousse redémarre doucement dans la lumière mauve, presque nacrée, qui glisse entre les maisons, penchées sur leurs cours intérieures, et se saisit des milliers de petites particules de poussière pour en faire le temps d'une poignée de minutes autant de chrysolites à la recherche de quelque étoffe précieuse afin de la parer. Serge reprend son sac et commence à monter vers la maison d'Abidine. C'est toi, Serge ? Serge a repéré bien avant d'entendre la voix de tache claire de la chemise d'Adrien. Oui, c'est moi. Serge, tu vas bien ? Oui. Je l'ai apporté comme promis. Oh, je n'étais pas fier à la douane. Le camouflage n'est pas fameux. Serge, Abidine ne s'est pas levé aujourd'hui, il a beaucoup de fièvre, il fait peine à voir. La nuit est tombée totalement, les étoiles tremblent et au loin les chacals hurlent brièvement. Tu as fait bon voyage tout de même? Ça me fait plaisir que tu sois déjà là. Ben, je me fais du souci pour Abidine. Ben, tu vas lui apporter le manuscrit dès que je l'aurai dégagé de son déguisement. Tu sais, j'ai hésité entre une BD porno et celle de Lozier sur la politique française en Afrique. Ben, tu cherches les ennuis. Non, je plaisante, voyons. J'ai été très raisonnable. J'ai choisi une histoire de la musique avec des feuillets déjà bien jaunis. Ça m'a facilité les choses parce qu'il y avait pas mal d'illustrations protégées par une feuille de papier Bible et j'ai pu ainsi insérer le document sans trop de problèmes. T'es un chic type, Serge, parce que si tu te faisais piquer à la douane avec ça, c'est pas de simples ennuis que t'aurais eu. Je sais, mais il n'y avait pas d'autre solution, du moins pour Abidine. Il a déjà tant de mal à imposer le respect de la tradition qui interdit le départ des manuscrits hors de cette ville. Ah oui, hier il m'a annoncé qu'il s'était donné encore une semaine avant de demander la réunion du Conseil des Sages. Il veut remettre sa charge à quelqu'un qui en soit plus digne que lui, m'a-t-il dit. Le problème, c'est qu'il culpabilise complètement à propos de ce vol et personne ne peut le convaincre que ce qui s'est passé aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Oui, sauf que les autorités britanniennes et même les instances internationales restent fondamentalement convaincues que ces bibliothèques du désert ne peuvent vraiment pas être correctement entretenues et protégées du sable, des termites et des voleurs, si elles ne sont pas regroupées en un lieu officiel et mises sous la tutelle d'un organisme étatique, enfin, qui en aurait la charge. Sans compter que l'État mauritanien voit déjà les retombées économiques d'un tel regroupement, qui permettrait à des milliers de touristes et quelques poignées de chercheurs de venir facilement dans une ville qui pourrait les accueillir afin d'admirer ou d'étudier ces manuscrits. Tu comprends bien qu'en l'état actuel des choses, les touristes ne vont pas se déplacer massivement dans le désert, où les conditions de voyage ne sont pas évidentes, pour aller voir quelques vagues bouquins. Oui, je sais, mais ce que je sais aussi, c'est la force du lien qui attache ces femmes et ces hommes aux manuscrits qui leur ont été transmis de génération en génération. Ces livres sont la mémoire écrite de leur peuple. Ces livres sont leur dignité et leur identité par-delà les aléas de l'histoire, les périodes de crise, les colonialismes. Ces livres, enfin, sont les traces de ce qu'ils ont toujours honoré, Dieu. Je ne comprends pas bien pourquoi les listes de patronymes seraient le signe de ce que leurs ancêtres honoraient les préceptes de la religion. Ça me dépasse. L'absence de postérité est une malédiction divine. Sourate 58, troisième verset. Oh là, tu m'épates. Non, non, j'ai beaucoup écouté Abidine, Sourate 58. Je te disais donc, celui qui te hait mourra sans postérité. Il faut que les hommes disent et fassent savoir qu'ils se sont multipliés par la grâce de Dieu et que cette multitude se voue à Dieu. Le manuscrit visé par le voleur est justement constitué de textes qui font le compte de la postérité de ce peuple, autrement dit, qui font la preuve que ces hommes et ces femmes se sont multipliés ainsi que le veut le Seigneur et parce que le Seigneur les couvrait de sa bienveillance. Or, ce dernier point, lui seul, atteste du mérite de ce peuple. Il le faut bien, en effet, puisque Dieu leur a accordé sa clémence et sa miséricorde, en le permettant effectivement de se multiplier. Oh, oh, mais tu m'as tout l'air du spécialiste en exégèse coranique. Attends, ce n'est pas tout. Le voleur n'a subtilisé qu'un feuillet du manuscrit. Or, quand tu m'as téléphoné pour m'expliquer ton intuition et comment tu avais fini par faire le lien entre ton passionné de géologie et ce feuillet, c'est là que j'ai compris. Et le pire, tu vois, c'est que très vite, Abidine m'avait mis sur ma piste, mais ni lui ni moi ne le savions. Tout le temps de l'hégémonie française, les différentes castes du pays ont été utilisés pour asseoir la domination de l'administration française. Et en 1960, au moment de l'indépendance, certains Mauritaniens ont senti que leur avenir était peut-être compromis s'ils restaient ici. Et il paraît qu'ils ont été assez nombreux parmi les plus favorisés par le colonialisme à partir. Et quelques-uns se sont donc installés en France. Et Abidine me citait le cas de familles qui n'ont plus jamais entendu parler de leurs parents exilés, malgré leurs recherches, les échanges de courriers entre ambassades, etc. Des rumeurs circulaient à cette époque. On parlait de disparitions non volontaires, d'enlèvements, enfin, tu vois. Mais il y a une chose dont Abidine est sûre. Il y a au moins 2 ou 3 membres d'ethnie de la région du Tagarth qui sont partis, mais sous un autre nom. Bon, je ne sais plus comment il l'a appris, une histoire complètement extravagante, mais qu'importe. De Farago. Oui, ben c'est obligatoirement notre homme. Tout le désignait, tout concordait. Tu comprends, à partir du moment où un type qui a tout fait pour qu'on oublie d'où il vient, au point d'effacer son nom de famille... Oh. Adrien, on reparlera de tout ça après, tu veux. Je suis fatigué, et puis le vieux Abidine mérite qu'on lui apporte enfin sa page manquante. Ah, tu as raison, je suis tellement content. Serge ouvre son sac à dos et en sort le livre d'histoire de la musique dans lequel il a caché la page volée du manuscrit. Tu arrives à la repérer ? Non, où est-ce que tu l'as mise ? Regarde, attention, décolle les pages doucement. Le feuillet est au milieu, entre Sainte-Colombe et Marais, entre le voleur et le volé. Oh, quel goût du détail, t'es raffiné. Oh, tu peux te moquer. Je te signale que mon histoire de la musique vient de subir là une sacrée dévaluation. Ah, parce que ça fait partie de ton fond, ben évidemment. Et ça coûte cher, un bouquin comme ça. Oh, bien sûr, 5 ou 6 000 francs. Mais tu es fou, tu ne pouvais pas choisir autre chose. Je ne te comprends pas, Serge. Tu es parti en m'expliquant qu'il faudrait probablement que tu te serres un peu la ceinture en vue des changements que tu envisageais, et là tu... Arrête de t'exciter, Adrien, je plaisantais. T'es incroyable, toi. Tu n'as aucun sens des réalités. Oh, tu peux faire un brillant cours d'économie marxiste, mais tu n'as pas la moindre idée du prix d'un livre. Allez, je suis content que tu sois là. On va recommencer à chamailler. Ça me manquait. Pourtant, j'ai vécu de beaux jours dans cette maison. Tes travaux ont bien avancé. Oh oui, j'ai trouvé des choses fabuleuses dans la bibliothèque. Et puis j'ai découvert en Abidine un être d'exception. On a passé des heures à lire dans le plus grand des silences, et des heures encore ici, sur cette même terrasse, à parler en regardant la nuit s'installer, défroisser le ciel, et le tendre bien plat au-dessus de Tichit, à écouter les murmures des ombres, les soupirs des oiseaux, les plaintes des palmiers sous le vent, et le bruit feutré du sable qui respire à mesure qu'il avance et envahit les rues et les maisons. Alors dépêchons-nous d'aller porter ça à Abidine. Oh, je suis sûr que la vue de ce feuillet va le faire sortir de son lit. Serge et Adrien pénétrèrent dans la maison. La première pièce, étroite, est chaulée de frais, et les murs sont nus en dehors d'une immense photographie noir et blanc, représentant une femme debout à côté d'une porte. On peut voir tous les détails du bois, les nœuds, émouvant de fragilité par rapport à l'aspect très massif de l'ensemble, clenche et loquet compris. La femme, au contraire, semble un peu floue, comme si le photographe avait réglé son objectif sur le système de fermeture de la porte. L'idée fait sourire Adrien, qui y pense chaque fois qu'il passe dans cette pièce. Au bout d'un couloir, éclairé par la lune qui éclabousse le sol de forme d'une clarté laiteuse, la porte d'une autre pièce est ouverte. Là se tient Abidine, les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, le souffle court. Ah, il me semblait avoir entendu du bruit. Oh, non, c'est juste moi, dit Serge en s'avançant vers le vieil homme. Il lui tend le feuillet glissé entre deux morceaux de papier de soie. Voilà, c'est pour vous. Abidine prend délicatement la page. Oh, merci, merci. J'ai beaucoup prié pour connaître cet instant. Sans vous. Allons, il n'est pas l'heure de s'attendrir. Je vais remettre ce manuscrit là où il doit être et après nous boirons du thé. Tu dois être fatigué, mon fils, après ce voyage. Abidine retourne dans la pièce qu'il a quittée quelques instants auparavant. Sous la lumière des lampes à pétrole, les tapis semblent assoupis, tant leurs couleurs sont fondues ensemble en un bel ocre mordoré. T'as pas eu de tempête de sable? Allez, viens, installe-toi près de moi. Tu vois, le manuscrit est là, comme moi, il attendait. Il était amputé d'une part de lui-même. On ne devrait jamais arracher la page d'un livre. Où est Adrien? Il est parti préparer du thé. C'est bien, on va l'attendre et puis tu raconteras. Dans la pièce, les manuscrits sont groupés ainsi que Serge les avait vus la première fois. Les couffins qui contiennent les ouvrages à traiter contre les termites ou ceux dont les reliures doivent être restaurées sont alignés le long du mur. Un courant d'air un peu frais pénètre par la porte qui s'ouvre sur le désert et s'enfuit, entraînant derrière lui quelques rayons de lune par le couloir qui mène à la terrasse. Sur une table de bois épais, Serge reconnaît le matériel d'écriture de son frère, un stylo-plume dont il ne se sépare jamais, et une petite boîte qui contient la réserve de caoutchouc touche d'encre. Il est un peu ému de trouver ces objets-là, tout en ayant le sentiment qu'ils y sont vraiment à leur place. Un léger parfum de musc se mêle à l'âcreté plus prononcée du charbon de bois dont les murs, les tapis, les livres sont imprégnés. Adrien apporte le canoun et la théière bleue, tire vers les deux hommes déjà installés le plateau avec les verres à thé et le sucre, puis il s'assied à son tour. Alors? On t'a attendu avant de commencer. Le silence est bon qui fait un écrin pour les belles actions. Mes fils, je ne pourrai jamais rembourser la dette que j'ai envers vous. Aussi. Adrien a laissé échapper cette réponse murmurée, comme s'il avait peur de briser l'harmonie de la nuit. Si, vous allez rembourser votre dette et vous savez comment. Tu as raison, Adrien. Je vais continuer à m'occuper de la bibliothèque. J'ai pas le droit de m'en désintéresser. Ce serait un mensonge parce que je tiens chacun de ces manuscrits. Ce serait aussi de l'acheter parce que les femmes et les hommes de ce pays ont besoin des mots qui nourrissent leur mémoire. Ce serait aussi une offense à Dieu. Il est dit, lorsque le ciel se fendra et que les étoiles seront dispersées, que les mers confondront leurs eaux, l'âme verra ses actions anciennes et récentes, et ce jour-là l'âme ne pourra rien pour l'âme. Et c'est maintenant que je peux quelque chose. Serge intervient. Des livres circulent toujours sur la route de l'espoir, au travers des déserts de Mauritanie, et tout le long des pistes du Sahara, d'est en ouest et d'ouest en est, des caravanes transportent des millions de mots, j'en suis sûr. Cependant, nous ne le savons pas, parce que nous ne faisons pas attention et nous ne les voyons pas. Tu sais, Adrien, le chauffeur qui m'a déposé ce soir à Tichit, voyage toujours avec deux livres qui l'accompagnent sur toutes les routes, deux bouquins tout jaunis, Flaubert et Platon, que lui a donné un vieil homme qui allait au Mali. Alors, moi, je lui ai donné le recueil que tu m'avais prêté avant que nous quittions Paris et que j'avais remis dans mon sac pour continuer d'apprendre ce poème, tu sais. Il nous naît un ami et voilà qu'il nous cherche. Il ne connaîtra pas votre nom ni vos yeux, mais il faudra qu'il soit... Oh, après j'ai oublié. Qu'il soit touché comme les autres, éloge dans son cœur d'étranges battements, qui lui viennent de jours qu'il n'aura pas vécu. Tu le connais par cœur ? Oui, c'est dans les Amis inconnus. Au-dessus des vers, le teck coule en longs jets fumants et mousseux, qui bousculent sur les bords transparents de minuscules bulles dorées qui disparaissent en d'âpres parfums sucrés. Dehors, le vent s'est levé et souffle dans les maisons abandonnées qui gémissent leur solitude. La flamme des lampes vacille et couche les ombres des trois hommes sur les murs pour veiller les manuscrits. Abidine a disposé les plis de sa gandoura blanche sur ses jambes repliées. Son visage, éclairé par un rayon de lune, ressemble à quelque moulage à la cire perdue, et son corps est comme une âme de terre compacte avec laquelle le temps aurait posé ses traces. Pendant ce temps, à Paris, une femme veille. Elle a pleuré et ri. Elle a lu et mangé. Elle a dormi au peu. Elle a fait tous les gestes de la vie, lavé du linge, préparé un repas, brossé ses cheveux. Elle a rêvé d'un homme dont l'absence est brûlure de plomb chauffée à blanc. Et sans savoir s'il reviendra un jour, elle s'est dit « Je l'attends ». Françoise Chevelier, Paris, 16 août 2001.